Elles font le marché de Noël. Et que trouvons-nous sous le sapin cette année? Les meilleurs moments des 10 premiers épisodes du podcast. Céline et moi vous offrons ce petit florilège dans lequel vous allez reconnaître les voix des femmes qui ont fait la première année de ce podcast qui cumule à ce jour plus de 25 000 écoutes. 40 femmes sont passées par notre micro, nous les en remercions chaleureusement. Témoignages, conseils, émotions, espoirs, désirs, doutes et succès, chacune nous a confié un peu de son histoire et de sa passion.
Oh Christmas tree, oh Christmas tree, how lovely are thy branches.
Voici donc les meilleurs moments d'Elles font le marché, en vous souhaitant un joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année.
Je vois un homme au marteau et je dis c'est ce métier-là que je veux faire. Ça, c'est moi.
Pendant toutes ces années, on a appris beaucoup de choses dans un milieu très haut de gamme, avec beaucoup d'exigences, où la passion était quand même au cœur du débat, parce que c'est quand même des métiers qu'on fait par passion, surtout.
Et on avait envie, toutes les deux, de faire quelque chose de plus moderne dans cette profession qu'on adorait.
C'est pas possible, à 30 ans, même pas 30 ans, d'être fatiguée, en fait. On s'est dit, peut-être qu'on pourrait faire autre chose, en faire, et faire les choses différemment.
Cette émotion particulière, lorsque l'on fait face à une œuvre pareille, parce qu'1 550 000 euros au prix marteau, presque 2 millions frais compris, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est pour l'instant, en tout cas, le record dans les dessins anciens pour l'année 2021. Donc, c'est vrai que c'est un grand, grand frisson.
C'est votre plus belle vente?
Oui.
On avait juste cette petite intuition.
Pour être parfaitement sincère, j'ai eu super peur en me disant « non, je peux pas, je suis pas légitime ». Donc, si tu te lances pas aujourd'hui parce que t'as peur, mais tu te lanceras pas non plus dans les 50 ans parce que t'auras toujours peur. Enfin, j'ai trouvé que j'ai dû d'autant plus redoubler d'efforts. Parce que je suis jeune, donc souvent on me demande si je suis l'assistante de l'expert, parce que je suis une femme, parce que ça reste quand même encore un milieu où les hommes ont une place forte, donc on me demande aussi où est l'expert. Pour moi, je dirais j'ai redoublé d'efforts, mais ça en vaut la peine.
Il y a des choses dont je suis plus fière que d'autres. Par exemple, je trouve ce manteau-là, il est magnifique.
Les ventes qu'on faisait sur Paris étaient uniquement des ventes de voitures. De vente d'automobiles de
collection.
Donc un domaine d'hommes.
Non, je pense qu'on est plutôt sereine sur l'avenir.
On travaille beaucoup. Et en même temps, c'est très beau parce qu'en revanche, il faut le faire si on est passionné.
On ne regrette pas une seconde.
Pas de regret.
Je pense qu'on a choisi la bonne solution. Et d'autant plus que maintenant, on se rend compte que les autres études, parfois, nous appellent pour nous demander comment on fait.
Et ces deux toiles étaient des vrais chefs-d'œuvre et les héritiers ne les connaissaient pas du tout. Et on les a vendues, les deux, plus d'un million d'euros. Et vraiment, ça a été un moment très fort pour nous.
Non, on est très contents. Enfin, l'avantage, en fait, de l'entrepreneuriat, et en plus quand c'est un sujet qui nous passionne, c'est qu'on peut tout faire en fait.
Si on se décourage pas, ça peut donner une forme de force aussi. Donc merci les vieux les vieux messieurs condescendants.
Je dirais même que c'est essentiel de montrer que en tant que femme, on peut avoir un métier qui était plutôt masculin à la base.
Ma génération, c'était Freedom, à poil sur la plage, tous à poil sur la plage.
Et voilà, quand je vois mon nom dans la gazette, je l'aurais jamais eu si je m'étais pas lancée à mon compte. Et ça, c'est à 30 ans, c'est une petite victoire, oui.
Je me considère comme une féministe, oui. Oui, et quand j'ai eu cette histoire avec les Grilles Lafayette, par exemple, j'étais extrêmement choquée que les féministes me sautent dessus.
Il ne faut pas hésiter, quand l'envie est là, quand la passion est là, et quand cette vocation vous tient, vous pouvez faire des miracles.
Je suis actuellement en pleine préparation du concours de l'examen d'accès au stage de commissaire priseur.
Ça fait partie vraiment des métiers qui sont... qui font rêver en fait les jeunes et qui les motivent.
Oui, je pense qu'il y a toujours des efforts à faire. On sait qu'on n'est pas égaux dans ces postes de direction.
De plus en plus, je vois des modèles et en ce moment, je pourrais citer quelques curateurs hommes, mais je préfère ce que les femmes font.
Une vente qui n'est consacrée qu'aux artistes femmes, c'est de toute façon un acte qui a un écho politique. Et c'était l'occasion, à notre petite échelle, de pouvoir faire un tout petit peu changer les choses.
Il y avait aussi quelques profs qui nous ont dit que c'était quand même un milieu assez macho.
L'émancipation féministe qu'on a connue ces dernières années, les mouvements MeToo, l'importance de la femme,
et enfin on y arrive dans le marché de l'art.
Je suis une femme, donc il faut être la meilleure. Le syndrome de la bonne élève, en fait.
Il y a un gros syndrome de l'imposteur qui n'arrive jamais vraiment à s'estomper. Les obstacles, les motifs de réjouissance, comment gérer l'annonce de son congé maternité, enfin des choses vraiment très concrètes.
Et cette étude nous indique qu'entre 2008 et 2019, les œuvres du seul Picasso se sont vendues pour 4,8 milliards de dollars. Les œuvres de toutes les artistes femmes réunies se sont vendues pour 4 milliards de dollars.
Je trouve que c'est fabuleux de pouvoir effectivement avoir des expositions monographiques sur des artistes femmes dont la carrière effectivement est tout aussi longue que celle d'un homme. Il y a quand même des femmes qui sont piliers à leur manière de l'histoire de l'art et qui pour le coup existent assez peu en vente aux enchères.
Comment on évalue le NFT d'un chef-d'œuvre ?
Ce qui m'a vraiment intéressée, c'est le fait justement de lier le NFT à l'œuvre d'art physique.
En fait, il y a trop professionnels du marché de l'art qui ont fermé les yeux sur les agissements de leurs clients.
Et donc, l'art va rentrer en bourse.
Le marché des NFT. Voilà. Donc, encore une fois, c'est un marché de l'art qui est clairement parallèle. Parce qu'aujourd'hui, moi, les prix, très honnêtement, les prix du marché de l'art, les prix de certains tableaux ou les prix des NFT, je ne les comprends pas.
Et le fait d'être une femme entrepreneur est plutôt, au contraire, super porteur, je trouve, aujourd'hui sur le marché de l'art.
Le marché en Asie s'est diversifié, s'est occidentalisé et ça crée des opportunités d'achat.
Cela est très important pour nous, en tant que transporteurs d'œuvres d'art et compagnie, de pouvoir avoir une vision écologique du marché de l'art, car nous participons à 60% des émissions de CO2 dans le monde.
Donc, l'acheteur asiatique est devenu excessivement important. Qui sont ces nouveaux acheteurs ? Donc
aujourd'hui, Hong Kong est vraiment la place de marché en Asie. Quand je vois le profil de mes clients, il est essentiellement blanc, masculin et assez âgé. Mais j'espère que ça va changer et je pense que ça va changer puisque le marché de l'art n'est que le reflet de la société.
On est à ce type de poste, femme, de couleur, ça fait doublement sens. Oui.
Le fait de parler des femmes dans le métier du marché de l'art, voilà, c'est quelque chose de très novateur.
Bon, il faut que les femmes parlent.
Bah, il faut que les femmes parlent, c'est évident, oui.
Si vous avez aimé ces fragments, reportez-vous à la page du podcast sur Art District Radio ou sur iam.fr pour retrouver l'intégralité des 10 épisodes et en savoir plus. Et n'oubliez pas de suivre Elles font le marché sur Instagram.